Dans l'histoire sainte d'Israël, il y a eu trois grands rois. Saül, David, Salomon. Le premier est sans doute le moindre des trois, que Dieu a fini par répudier de façon assez sévère, alors qu'il avait eu la lourde tâche d'ouvrir la royauté, d'une certaine façon d'essuyer les plâtres. Mais son nom était resté suffisamment fameux pour qu'il soit donné à celui qui est devenu Saint Paul, Saul. David, c'est le bien-aimé de Dieu, le héros contre Goliath, le chef de bande, le chef de guerre. Mais il est aussi l'homme de louange, l'auteur de nombreux psaumes. Il est évidemment présent, très présent dans l'Évangile, notamment par le titre messianique de « Fils de David ». Titre que Jésus a assumé, notamment dans un dialogue qui est rapporté par les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, un dialogue assez étonnant, tout à fait rabbinique, avec ses détracteurs, où Jésus demande comment est-ce que les scribes peuvent dire que le Christ, c'est-à-dire le Messie, est fils de David. Puisqu'en effet, c'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint, et ça c'est le psaume 109 que l'Église prie tous les dimanches soirs, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous mes pieds. » David en personne l'appelle Seigneur, dit Jésus. Comment peut-il être son fils? Et les évangélistes disent, personne ne fut capable de répondre. Matthieu précise même, à partir de ce moment-là, plus personne n'osa l'interroger. Et puis Salomon, c'est l'héritier de David, dont Jésus a également assumé l'héritage. La mémoire d'Israël reconnaît en particulier à Salomon d'avoir bâti le temple de Jérusalem, ce qui ne fut pas donné à David, parce que David, dit l'Écriture, et lui dit le Seigneur, avait trop de sang sur les mains. Et puis il y a surtout la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon qui fut telle, c'était l'évangile de lundi dernier, telle que la reine de Saba est venue des extrémités de la terre pour écouter cette sagesse de Salomon. Et Jésus précise, et il y a ici bien plus que Salomon, en parlant de lui-même. Salomon, c'est celui qu'on retrouve dans la première lecture de ce dimanche, que la liturgie nous donne en vis-à-vis, d'une certaine façon en éclairage, de la fin du discours en parabole de Jésus. C'est une scène fameuse, le songe de Gabaon, où Dieu apparaît en songe à Salomon et par amour pour son père David, lui dit « Demande tout ce que tu veux ». D'habitude, c'est dans les contes et légendes qu'il y a un bon génie qui apparaît, qui sort d'une lampe et qui dit « Je peux exaucer trois vœux ». Voilà un bon sujet de rêve ou de réflexion. Quels sont les trois vœux que vous demanderiez? Si on pouvait exaucer trois de vos vœux, tous vos souhaits, trois vœux, qu'est-ce que vous demanderiez? Salomon ne demande ni la santé, ni la richesse, ni la gloire. Il demande, c'est magnifique, il demande la sagesse. La sagesse même pas pour lui-même, pas pour le plaisir, pour la mission qui lui est confiée, pour pouvoir être effectivement un bon roi, pour pouvoir gouverner. Si nos gouvernants pouvaient en faire pareil, mais même si nous-mêmes nous pouvions avoir pareille ambition, être des sages, on dit toujours devenir des saints. Mais probablement pour devenir des saints, il faut commencer par un minimum de sagesse, par devenir des sages. Avant d'être des chrétiens, il s'agit d'avant tout d'être humains. Au début de l'année, rappelez-vous, au moment des vœux comme chaque année, qu'est-ce qu'on s'est souhaité? De la santé, du bonheur, de la prospérité, de l'amour, du travail. Mais tout le monde était d'accord, la santé en premier. Et il n'est donc pas surprenant qu'au moment de l'épidémie, nous l'ayons choisi en premier au détriment d'ailleurs du travail et de la prospérité. Mais vous noterez que de sagesse, il n'en est guère plus question dans le monde où nous vivons. Monde de fous, dit-on souvent. Monde parfois de farceurs, pour ne pas dire souvent de menteurs. Dans la parabole de la perle de grande valeur, le négociant en perles fines, qui va vendre tous ses biens pour acheter cette perle unique de grande valeur. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Par se mettre d'accord avec le vendeur. Top là! Pas un contrat. Top là! Qui peut dire encore aujourd'hui « Ta parole me suffit ». Ta parole me suffit. L'histoire de Salomon finit mal. Si vous prenez la Bible de Jérusalem,
elle met en titre de la dernière partie de sa vie, « Les ombres du règne ». C'est un double pléonasme pour dire simplement que Salomon s'était totalement détourné de Dieu. Détourné de Dieu, il avait sacrifié aux idoles. Pourquoi ? Parce que Salomon, en digne fils de David, aimait les femmes, aimait trop les femmes, aimait des centaines de femmes, des milliers de femmes et des femmes étrangères dont il s'est mis à honorer, à adorer les faux dieux, les idoles. C'est la question, vous pourrez relire ça, c'est le chapitre 11 du premier livre des rois. Où est passée sa sagesse ? Où est passée sa sagesse ? Mais c'est une grande question, ne voit-on pas tant de personnes remarquables qui perdent leur intelligence pour satisfaire leurs désirs ? Perdre son intelligence pour satisfaire ses désirs. Ça a été d'ailleurs le cas de David. On parle souvent des péchés de David, ce n'est pas les ombres du règne, ce sont les péchés de David. Dernier péché, ça a été d'ordonner le recensement de ses forces pour voir à quel point il était puissant contre la vie de ses généraux. Mais quand on parle du péché de David, on fait référence bien sûr à celui dont il demande repentance dans le psaume 50 que nous prions chaque vendredi. Un péché d'abord d'oisiveté, il traînait un soir sur sa terrasse, puis de convoitise, il faut une femme remarquable qui se baigne, Bethsabée. Suivi d'adultère, il la fait venir, il couche avec elle. Et comme elle tombe enceinte, c'est suivi d'un meurtre. Parce qu'il cherche à faire endosser cette paternité à son mari, à Uri le Hittite, qui refuse. Uri meurt, l'enfant qui est né de cette union illégitime meurt également. Et quand on voit la suite, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que David épousa cette femme, Bethsabée, de laquelle naquit un fils, Salomon. Vous imaginez les procès qui leur seraient faits aujourd'hui, à David comme à Salomon? Ce n'est pas ce que dit Jésus. Il y a dans le sermon sur la montagne cette parabole que vous connaissez, de la paille et de la poutre. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Du jugement dont vous jugez, on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Les paraboles du royaume nous invitent, nous exhortent, nous enjoignent à laisser le Seigneur et lui seul rendre justice. C'est ce que nous entendions déjà dimanche dernier. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, ceux qui font le mal. Et il y avait la même formule qu'aujourd'hui. Dans la fournaise, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais avec cette image, cette promesse magnifique, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Quant au scribe qui veut devenir disciple du royaume, c'est-à-dire nous qui écoutons la parole, le scribe qui scrute les Écritures, le scribe, celui qui scrute les Écritures pour devenir disciple du Christ, il doit apprendre à discerner, avoir cette sagesse, discerner ce que nous devons imiter et ce à quoi nous devons renoncer. Et c'est ainsi que nous serons comparables au maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Du neuf injecté, du neuf adapté, du neuf à trouver, à créer, mais de l'ancien à respecter et à honorer. Pour le dire simplement, le Seigneur nous demande de voir en chacun ce qu'il a de meilleur. Voir en chacun ce qu'il a de meilleur.